Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à la situation au Liban, en particulier à la situation politique, même si il y aurait aussi beaucoup à dire sur la crise économique et sociale. Mais c'est vrai que dans quelques semaines, il y aura des élections législatives le 15 mai prochain. Pour l'instant, c'est la date qui a été annoncée par le Premier ministre. 3,9 millions d'électeurs libanais seront appelés à s'exprimer ce jour-là. Mais les élections auront-elles lieu à la date annoncée? Quelles seront les forces en présence? C'est les questions qu'on a envie de poser à notre invité du jour, Khatar Aboudiab. Bonjour.
Bonjour, cher ami. Bonjour.
Je rappelle que vous êtes politologue, consultant en géopolitique et spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient. Alors, ma première question, Khatar Aboudiab, c'est les élections auront-elles lieu le 15 mai prochain, comme annoncé, parce que des voix demandent un report, notamment suite à l'annonce du retrait de Saad Hariri de la compétition électorale, et donc son parti ne présentera pas de candidat, et certains disent que c'est un événement qui est de nature à provoquer éventuellement un report de la date des élections.
En principe, ces élections auront lieu le 15 mai prochain. Même aujourd'hui, la délégation permanente des Nations Unies au Liban, en coopération avec le Premier ministre libanais, a organisé un forum concernant ces élections. Hier, le Premier ministre Najib Mekati a annoncé que une bonne partie de l'argent nécessaire à cette à ces élections, c'est-à-dire 15 millions de dollars. Vous voyez, c'est pas une somme énorme, mais compte tenu de la situation financière au Liban, il faut bien chercher cette somme. Et donc, il y a, donc apparemment, il est optimiste de trouver toute cette somme. Du point de vue technique, malgré tout, soit pour le vote des Libanais à l'intérieur ou les Libanais à l'étranger, on trouve toujours des remèdes, on trouve toujours des solutions. Reste la question politique. À un moment donné, on craignait que le courant national libre, le courant du président Aoun et de Gibran Basile, présente une nouvelle proposition de loi au Parlement concernant l'annulation du vote des Libanais à l'étranger pour les remplacer tout ça par une élection de représentants de la diaspora libanaise, 6 personnes selon les appartenances communautaires réparties sur les continents. Cette question a été plus ou moins aussi encouragée par le Hezbollah, car il craint, à cause de sanctions dont ce parti fait cible, il craint que ses partisans n'auront pas la liberté d'action dans le vote à l'étranger. Donc, cette hypothèse n'est pas exclue. S'il y a au Parlement libanais une intention de faire en fait annuler le vote des Libanais à l'étranger, ça peut ouvrir la porte de Pandore, c'est-à-dire il faut dans ce cas reporter la date des élections, il faut faire de nouvelles mesures administratives et logistiques. Il y a une autre question, la question économique et sociale d'ici le 15 mai, à cause du blocage dans les négociations avec les FMI. Pour le moment, pas de négociations, pour le moment, pas de budget annuel libanais adopté, pour le moment, pas de plan qui précise les pertes sèches de l'économie libanaise et qui permet une négociation transparente avec les FMI. Pour cela, une érosion de la situation pourrait faire plus d'anarchie et de chaos dans le pays, et on n'exclut pas non plus un événement sécuritaire, un attentat ou quelque chose. Donc, grosso modo, tous signalent, tous soulignent que les élections auront lieu, sauf une intention politique de la part de la majorité politique actuelle du Liban, c'est-à-dire Courant Unis Hezbollah, ou s'il y a une détérioration sécuritaire.
Alors, vous avez dit que les élections auraient lieu. Ça semble aussi être l'avis du Premier ministre, Najib Mikati, qui néanmoins a annoncé qu'il ne serait pas candidat et qu'il craignait, suite au retrait de la vie politique libanaise de Saad Hariri, une forte abstention des sunnites. Et dans ces conditions-là, est-ce que vous partagez ce point de vue du Premier ministre? Et est-ce que, comment vous expliquez que lui-même ne soit pas candidat, actant de fait qu'il est là pour gérer la transition jusqu'aux prochaines élections?
C'est ça la grande interrogation pour cette échéance électorale du 15 mai prochain. Le vote de la composante sunnite au Liban, la communauté sunnite, c'est l'une des grandes communautés libanaises, c'est la communauté majoritaire des grandes villes du Liban, Beyrouth, Tripoli, Saïda. Cette communauté, elle est présente presque dans toutes les circonscriptions électorales. Et pour cela, sa faible participation ou son abstentisme crée une situation qui ressemble aux élections de 1992, où la composante chrétienne, après les accords de Taif, n'a pas participé à ces premières élections depuis trois décennies. Mmh. C'est-à-dire, car les derniers parlements libanais étaient de 1972. En 1992, la composante chrétienne n'était pas au rendez-vous, et pour cela, il y avait un déséquilibre dans le parlement. Et là aussi, si Saad Hariri et tous les membres du courant du futur ne seraient pas candidats, et la grande majorité des électeurs du courant futur ne participent pas au vote, et si en plus le président Najib Mikati, qui préfère garder la neutralité, et peut-être c'est un accord tacite entre lui, Saad Hariri et les anciens premiers ministres, il ne serait pas candidat. Donc il y a une interrogation aussi sur la représentativité de ces parlements qui va sortir des urnes. Il y aura des doutes sur la représentativité, sur la légitimité. Et ça, c'est un problème énorme. Et peut-être, ces prétextes, ou ces problèmes, ces défis, qui pourraient s'ajouter aux autres facteurs que j'ai énumérés au début de cet entretien, pourraient être l'excuse chez les courants nationaux libres de Jalal Aoun et le Hezbollah pour pouvoir reporter ces élections. Le Hezbollah, comme les courants nationaux libres, ont maintenant la majorité parlementaire. S'ils parviennent à imposer Jobran Basil comme héritier de son oncle Michel Aoun, comme président de la République, comme continuateur des Corahounistes, tant mieux. Sinon pas, il prolonge tout. Et le Liban a l'habitude de ces prorogations. On a parlé 1972, et depuis l'assassinat du martyr Rafiq Hariri, entre 2005 et 2016, on a eu presque la moitié de temps de blocage, de l'impasse. Donc l'impasse, c'est pas l'impasse de la suspension de Saad Hariri et de son action politique. C'est pas l'impasse de l'absence de vote sunnite. C'est pas l'impasse de cette domination de Hezbollah et de cette intention de Michel Aoun de bloquer la vie politique, on est face à l'impasse au Liban. Le Liban est en impasse. Il est en impasse politique, impasse sécuritaire, impasse socio-économique. Il risque de plus en plus l'érosion.
Mais, comme vous l'avez indiqué, la composante sunnite est importante, démographiquement, économiquement et aussi politiquement. S'il n'y a pas un ou des partis ou un leader qui émerge d'ici au 15 mai, il est probable effectivement qu'il y ait une forte abstention. Est-ce que il y a une possibilité que ce vide soit comblé d'ici le 15 mai, ou bien au contraire, on va assister à une forme de boycott qui ne dit pas son nom du scrutin, qui amènera, comme vous l'avez indiqué, un parlement qui sera beaucoup moins représentatif et pas, en tout cas pas représentatif de la diversité politique du pays.
Non, c'est ça la grande crainte. Vous avez bien évoqué cette grande crainte. Si cette hypothèse de la non-candidature de M. Mekati comme la non-candidature d'autres anciens premiers ministres, et notamment Fouad Senioura, l'un des compagnons de Rafiq et de Saad Hariri, même s'il y aura des candidats sunnites régionalistes par-ci, par-là, ils comblent un certain vide, mais il n'y aura pas un représentant national du sunnite, il n'y a pas une force sunnite cohérente, il y aura des petites îles par-ci et par-là, et pour cela, donc, je ne dirais pas ce serait un rendez-vous pour rien, ce serait un rendez-vous qui, et en plus de tout ça, la loi électorale en tant que telle ne permet pas aux forces de changement, à la nouvelle classe politique qui s'apprête, les jeunes qui sont issus de la révolution du 17 octobre 2019, de pouvoir même former un petit bloc. Donc pour cela, vraiment, peut-être le Hezbollah voudrait pousser vers une sorte d'une constituante au Liban, d'un nouveau départ pour remettre en cause tous les systèmes institutionnels libanais, pour changer les attributions entre les trois grandes communautés. Mais dans l'état actuel des choses, avec cette configuration de rapport de force, ce serait vraiment quelque chose qui ne serait pas dans l'intérêt des Libanais, car en fait, ce serait imposé plus que négocié. Et pour cela, donc, ces rendez-vous de 15 mai, il est capital quelque part, mais en même temps, il peut être une échéance pour rien dans ces conditions.
Mais vous le dites, il y avait quand même une demande d'une grande partie de la société libanaise, et en particulier de la jeunesse, d'un changement. Et finalement, vous nous dites, en raison du système politique et des modes de scrutin, il ne peut pas y avoir de traduction, de représentation politique de cette attente de changement et de cette demande de renouvellement aussi de la classe politique.
Même si on est très optimiste et on suppose l'arrivée des 20 ou des 30 députés sur les 128 députés parmi les nouveaux jeunes et parmi ces forces de changement, ça pourrait donner un certain avantage à ces forces pour exprimer dans les enceintes du Parlement leur point de vue. Mais du point de vue influence, leur influence serait toujours réduite, car c'est les systèmes de grandes communautés, les systèmes de répartition confessionnelle, ces systèmes ne permettent pas un véritable changement. Ils bloquent lui-même ces changements. Et donc, à part les risques de l'absence de la représentativité d'une composante sunnite, on a aussi un autre risque de l'absence de la représentativité du changement. Et en même temps, à cause de cette situation socio-économique, je pense que les gens sont vraiment éclairés, les gens n'ont pas envie d'aller voter, ils ont envie de boycotter. Donc, il y aura beaucoup de boycotts de cette participation. Je ne dis pas, je suis pour le respect des échéances électorales. Mais si j'observe ce qui s'est passé en Libye avec le report des élections du 24 décembre dernier, je ne sais pas jusqu'à quelle date, et malgré toutes les paroles de ce qu'on appelle communauté internationale, il n'y avait pas un effort ni une préparation du terrain. Si je me réfère aussi à la situation irakienne où les forces qui sont contre l'influence iranienne ont pu gagner ces élections, mais jusqu'à maintenant, il n'est pas permis à ces forces de transformer leur victoire électorale en ils n'ont pas pu transformer l'essai en réalité pour former un nouveau gouvernement irakien qui, en fait, rompt avec les anciennes méthodes et permettrait l'édification d'un nouveau État irakien. Et là aussi, ce qui est valable pour le Liban. Le Liban souffre avant tout de cette domination de Hezbollah et sans que le Liban. Et ça, pour cela, à mon avis, Saad Hariri a suspendu sa vie politique. La véritable raison, c'est celui-ci. C'est pas ce qu'on appelle un veto régional contre Saad Hariri. La véritable raison, pour moi, c'est le blocage de la vie politique au Liban par le Hezbollah. Et pour moi, sans souveraineté, sans la récupération, la restauration de la souveraineté du Liban, ni réforme, ni échéance électorale, ne servent pas à grand chose.
Merci beaucoup, Fatah Aboudiab. C'était extrêmement clair et votre analyse est particulièrement instructive sur la situation de crise et les blocages qui perdurent actuellement au Liban. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette première partie de l'émission.
Merci, monsieur.
Et on vous dit bien à très bientôt.
Merci bien, merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», une émission consacrée à la situation politique au Liban à quelques semaines des élections législatives du 15 mai. Élections législatives auxquelles vont être convoqués 3,9 millions de Libanaises et de Libanais inscrits sur les listes électorales pour élire 128 députés. Pour parler de la situation politique, j'ai le plaisir de recevoir Maya Kadra.
Bonjour.
Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, et en particulier sur les sujets du Moyen-Orient, Iran, Liban, également oui. Enseignante. Et ma première question, Maya, ça sera de vous demander si ces élections auront réellement lieu, puisque, en particulier depuis l'annonce du retrait de la vie politique de Saad Hariri, un certain nombre de voix s'interrogent sur le maintien à date, donc le 15 mai, de ces élections législatives. Est-ce que vous pensez qu'elles vont avoir lieu ?
Moi, je pense que il y a l'étau de la communauté internationale qui se resserre de plus en plus, en fait, autour du cou du gouvernement libanais, du président de la République. Il y a une telle pression internationale que si jamais ces élections n'ont pas lieu, le Liban sera vraiment isolé du reste du monde. Donc, ça sera vraiment le dernier affront. Insolent, hein, si je peux me permettre cet adjectif, que le gouvernement libanais aurait fait. Mais je doute d'une telle annulation et je trouve que c'est dans l'intérêt de tous, de tous les partis au Liban, de toutes les autorités, de toutes les communautés, que ces élections se tiennent. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de défis, il n'y a pas beaucoup d'écueils et d'obstacles devant ces élections. Aujourd'hui même, le président de la République, Michel Aoun, a dit que les élections pourront ne pas se dérouler, ne pas avoir lieu, faute de financement. Et ceci est une fake news, je le dis très clairement, parce que d'après l'Union européenne, d'après les acteurs internationaux, en fait, qui regardent de très près le Liban, qui vont surveiller aussi le processus électoral, toutes ces autorités, toutes ces puissances confirment que les financements ont été envoyés au gouvernement libanais. Donc ce que le président de la République essaye de faire aujourd'hui, c'est semer un petit peu la peur. Mmh. Et je trouve aussi, en fait, qu'il n'a pas intérêt à ce que ces élections se tiennent, parce que le CPL, le Courant Patriotique Libre, qu'il a fondé, est en net recul d'un point de vue populaire. Ce courant qui avait, grâce à ses ou à cause de ses alliances à gauche, à droite, avec des islamistes, avec du Hezbollah, avec des partis surannés qui n'existaient plus, mais aussi en tissant des alliances très communautaires aussi et en surfant sur un discours xénophobe et populiste, il réussissait à chaque fois d'avoir des blocs plutôt considérables, de 20 députés au plus. Après la révolution, après la Saoura en 2019, le CPL est en net recul en termes de popularité. Et c'est pour cela que le président de la République a eu cette déclaration. Il y a un deuxième obstacle aussi, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, pareil, il est vilipendé dans son camp même, en fait, dans la rue chiite, après la crise économique et qui dure toujours au Liban. Il y a beaucoup de colère dans la rue chiite. Il y a des chiites qui commencent à se séparer ou à s'éloigner petit à petit du Hezbollah. Et donc, est-ce que le Hezbollah est prêt à faire face à ses démons intérieurs, à faire face à la colère à l'intérieur de la rue chiite? Ça, c'est une deuxième question qui se pose. Mais concernant Saad Hariri, parce que vous avez parlé de lui, je pense que ce n'est pas ça ce qui va empêcher les élections de se tenir, même si Saad Hariri s'est retiré de la vie politique et que le courant du futur n'aura pas des candidats officiels. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de souverainistes dans la rue limite qui vont eux-mêmes en fait participer à ces élections, que ce soit par le suffrage ou bien par les candidatures. Il y a beaucoup d'appels et de négociations avec d'anciens acteurs sunnites, à savoir l'ancien premier ministre Fouad Sanoura, que ce soit d'autres députés qui étaient dans le bloc parlementaire du courant du futur. Je trouve que des listes électorales vont se former avec d'anciennes figures du courant du futur. Et ce n'est pas le retrait de Saad Hariri de la vie politique qui va empêcher ces élections de se tenir, d'autant plus que la communauté sunnite est une communauté très active politiquement et qui est aujourd'hui en face de ce danger de la milice chiite qu'est le Hezbollah. Et ils ne peuvent y faire face qu'en participant à ces élections, parce que la violence n'a jamais été un recours pour cette communauté, même s'il y a quelques fake news qui sont un peu fomentées dans les milieux du Hezbollah, dans les médias du Hezbollah, qui disent que les sunnites se radicalisent au Liban, qu'à Tripoli, il y a des cellules dormantes de Daesh, etc., etc. Que des fake news, en fait, qui sont faites pour décourager la communauté sunnite, mais cette communauté n'aura qu'un seul choix démocratique, qu'un seul levier d'action, c'est celui des élections législatives. Et ceux qui peuvent empêcher ces élections de se tenir, je le répète, ça pourrait être le courant patriotique libre, avec des acrobaties législatives, et ils ont essayé, hein. Ils ont essayé de faire passer une loi où les Libanais de la diaspora et les Libanaises de la diaspora ne seront pas représentés par le scrutin. Ils voulaient faire des représentants ou bien des députés libanais de la diaspora, mais ceci n'est pas une revendication de la diaspora libanaise. Ils veulent participer à l'élection des députés au Liban. Bon, ça, c'est tombé à l'eau. Le Hezbollah, par la violence, comme on l'a vu il y a 2 mois, quand ils ont essayé de neutraliser le travail et d'obstruer le travail du juge Tariq Bitar, ils ont attaqué Tayouné. On a eu les événements de Tayouné où ils sont descendus armés dans la rue et ils ont attaqué des quartiers résidentiels aussi. Donc le recours à la violence pourrait être une option pour le Hezbollah, mais je ne crois pas que ça soit très sage. Une option très sage et mûrie aussi. Donc pour le moment, le processus électoral a lieu, malgré la déclaration du président de la République qui dit que faute de financement, peut-être que ça les élections ne se tiendront pas. Mmh. Ça, ce n'est pas vrai. Et les élections se tiendront aussi malgré les pressions du Hezbollah. Ça, c'est d'après mon propre diagnostic.
Alors, néanmoins, le Premier ministre Najib Mikati s'est exprimé pour dire plusieurs choses. D'abord qu'il ne serait probablement pas candidat lui-même. Et d'autre part, il a exprimé sa crainte de voir une faible participation électorale des sunnites, à raison justement de ce retrait de Saad Hariri et des candidats de son parti politique, créant de fait quand même une certaine un flottement dans le camp sunnite, parce que eh bien il n'y a pas la certitude que ce vide politique puisse être comblé d'ici le 15 mai, et en tout cas que l'aspiration des Libanais au changement puisse s'exprimer à l'occasion de ces prochaines élections. Est-ce que il n'y a pas le risque, justement, quand on voit un petit peu toutes ces péripéties, d'une élection pour rien?
Il y a évidemment un découragement de la Russie sunnite, mais je ne trouve pas que le Premier ministre Mikati est le mieux placé dans la Russie sunnite, en fait, pour s'exprimer sur ces choses-là. Il n'a pas la popularité qu'avait Saad Hariri, et il n'a aucune légitimité de s'exprimer à la place du camp Hariri. Dans le camp Hariri lui-même, et d'après les informations qu'on a à la veille des élections, il y a beaucoup qui sont prêts à se présenter aux législatives. Et je rappelle que partout au Liban aujourd'hui, il n'y a pas une seule liste électorale de finaliser. Donc ce n'est pas uniquement ce vide des candidats sunnites, en fait, qui posent problème. Il y a des candidats chiites qui se sont pas encore présentés, des candidats chrétiens aussi, des représentants de partis qui participent aux élections aussi. Donc jusqu'aujourd'hui, en fait, la nébuleuse qui entoure ces élections n'est pas directement liée à la Russie sunnite et au découragement de la Russie sunnite après le retrait de Saad Hariri, mais c'est une nébuleuse qui est plus liée, en fait, aux alliances électorales et au manque de candidats jusqu'aujourd'hui. Tous les candidats ne se sont pas encore présentés. Il y a des partis qui cherchent toujours leur financement. Il y a des campagnes électorales qui ne sont pas encore lancées. Les slogans électoraux et les programmes électoraux ne sont pas encore lancés et finalisés. Et je trouve que tout le Liban est en retard sur cette question, sur ce grand événement et ce grand rendez-vous qui attend le peuple libanais. Et ce n'est pas, en fait, le frein. On ne peut pas uniquement responsabiliser Saad Hariri et la Russie sunnite. Je trouve que le retard se trouve partout, à l'exception de quelques partis qui déjà, ils ont retroussé leurs manches et qui ont déjà commencé leur campagne, mais toujours en timidité. Et c'est toujours timoré. Et c'est lié donc à plusieurs choses, en fait. C'est lié à la crise économique, c'est lié à la crise sanitaire aussi. Et je trouve qu'il y a plusieurs obstacles qui empêchent déjà, avant la tenue des législatives, qui empêche déjà la campagne électorale de s'enclencher. Et nous attendons donc le vote du budget, nous attendons plusieurs échéances au sein du gouvernement pour que ça soit clair, pour que le tableau soit clair et pour qu'on sache et pour que les partis qui veulent se présenter aux élections ou bien les indépendants aient une vision ou une vue plus claire sur les prochaines semaines à venir, sur comment ces élections elles seront conduites aussi.
Alors ma dernière question, ça sera pour vous interroger sur la capacité des Libanais, quelle que soit d'ailleurs leur confession, et en particulier la jeunesse libanaise qui avait appelé de ses voeux de grands changements dans le pays, et en particulier des changements aussi dans le personnel politique. Est-ce que finalement le risque, c'est que, compte tenu du mode de scrutin et compte tenu effectivement de la répartition des pouvoirs de manière confessionnelle, il n'y a pas un risque que cette attente de changement, même s'il y avait une participation dans les urnes, elle ne se traduise pas concrètement à travers l'élection d'une nouvelle génération de députés dans le oui. futur Parlement, et que finalement il y ait une frustration de toute cette envie de changement, et en particulier de la jeunesse.
Exactement. Mais en fait, si la jeunesse, elle veut changer, moi, je l'appelle à participer massivement à ces élections, parce que la dernière loi électorale qui est loin d'être parfaite et qui est loin d'être non communautaire aussi, mais c'est toujours le régime au Liban est toujours un régime confessionnel. Donc la loi, elle correspond à ce régime. Avec une certaine brèche, qui permet une meilleure représentativité. Il y a une part de proportionnel dans cette loi électorale. Et donc, Donc si les jeunes arrivent à voter massivement, la proportionnelle leur permet d'élire leurs représentants. Et on a déjà des listes d'indépendants dont la mieux perfectionnée, je dirais, et celle qui est complète déjà, c'est celle qui est dans la circonscription du Nord, Nord 3. Et cette liste-là est une liste qui rassemble des indépendants qui ont une certaine popularité auprès des jeunes. Et si les jeunes du Nord, dans cette circonscription, votent massivement pour cette liste, eh bien, je trouve qu'il n'y a aucun obstacle pour que leurs représentants, qui sont issus de la rue révolutionnaire, qui sont issus aussi de la révolution, donc qui ont été très actifs lors de la révolution d'octobre 2019, ils peuvent être élus si ces jeunes votent massivement. Pareil à Beyrouth, où il y a eu l'explosion du port. Si on a un vote de jeunes massif, on peut changer la donne. Et cette loi le permet, même si elle est loin d'être parfaite, mais la proportionnelle, en fait, elle permet cette représentativité-là. Et on a déjà vu que des indépendants ont été élus en 2018. Et 2018, c'était bien avant, enfin c'était un an et demi avant la révolution d'octobre, et quelques indépendants, quand même, ont réussi à décrocher des sièges au Parlement. Et je trouve aujourd'hui, après ce changement majeur qu'est la révolution, après la crise économique aussi, et après l'émergence de beaucoup de figures indépendantes, de figures réformistes aussi au Liban, je trouve qu'il y a quand même un petit espoir de pratiquer une petite brèche au Parlement aujourd'hui, même dans ce contexte de crise. Et en fait, ça serait une assise aujourd'hui pour un véritable changement. On ne peut pas opérer un changement du jour au lendemain, mais on peut procéder en fait par échelon, on peut procéder par étapes, et c'est comme ça en fait que la bataille souverainiste et la bataille réformiste, elle peut être gagnée au Liban.
Merci beaucoup Maya Kadra, c'est le mot de la fin, il en faut un. mais c'est une note d'espoir en tout cas que vous apportez dans cette émission.
Bah, toujours Alexis, vous remarquez qu'à la fin, c'est vrai, toujours c'est la note d'espoir.
C'est vrai, il faut d'ailleurs, c'est aussi ce qui permet de rendre le quotidien moins difficile, et au Liban en ce moment les gens attendent aussi des notes d'espoir. Donc j'espère que vous leur en aurez offert une. Et on vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, enseignante, et que vous êtes particulièrement bien informée sur les questions liées au proche Moyen-Orient, l'Iran, le Liban. Et on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci Alexis.
À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.